en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert s'intéresse aujourd'hui au parcours d'un académicien des sciences qui se passionne pour la géologie. Il s'agit de René Blanchet. René Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous au studio de Canal Académie à Paris. Vous venez de Nice. Vous avez un emploi du temps assez chargé puisque vous êtes, comme je viens de le dire, géologue de formation, professeur des universités. Vous êtes actuellement professeur à Nice, à l'université de Nice. Vous êtes administrateur délégué à la fondation Sophia Antipolis. Et puis, ancien recteur, donc je dois dire monsieur le recteur, comme vous me l'avez précisé. Je vous ai posé la question, vous m'avez répondu très gentiment. Donc René Blanchet, monsieur le recteur. Nous aurons donc l'occasion pendant cette émission de revenir sur des détails de votre vie, de votre parcours, tous les pays que vous avez visités de par votre formation, les relations que vous entretiendrez avec les industries pétrolières. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit saut en arrière, quelques années en arrière, en 1941, il me semble. Vous me disiez qu'effectivement, en préparant cette émission il y a quelque temps, que vous souhaitiez parler de ce moment-là, qui est donc de votre enfance, et parler en fait de l'ascension sociale, de l'ascension sur l'échelle sociale, de par les études, René Blanchet.
Merci de m'accueillir tout d'abord. Un petit saut en arrière, effectivement, très réduit dans le temps à l'échelle géologique. Je tiens en effet beaucoup à évoquer cette période de mon enfance qui a contribué beaucoup à faire ce que je suis aujourd'hui. Je suis né dans un milieu rural, en pleine campagne, dans le nord du Massif central.
Dans le Bourbonnais.
Dans le Bourbonnais, dans une famille modeste pour laquelle le travail, la solidarité familiale et plus que tout encore l'école comptaient énormément. Et cette famille m'a toujours soutenu dans mes projets scolaires, dans ma scolarité à l'école publique de Chantelle, dans l'Allier, malgré évidemment des difficultés, puisqu'il n'était pas courant pour un jeune à l'époque de devoir quitter son village, non pas pour aller au cours complémentaire proche, mais pour aller au lycée, puis de s'engager ensuite à l'école normale d'instituteurs après le concours pour quitter le département, pour aller dans un autre département, puis enfin pour aller en classe préparatoire à Paris, où ce fut effectivement pour mes parents un grand saut qu'ils ont accepté. Et finalement, c'est grâce d'une part à ma famille, d'autre part à mes instituteurs, au directeur de l'école normale d'instituteurs, qui a convaincu mes parents qu'il fallait que je vienne au lycée Chaptal à Paris. C'était en 1959 et évidemment, les choses étaient moins faciles qu'aujourd'hui pour tout un tas de raisons. D'éloignement, les transports n'étaient pas ce qu'ils étaient, le coût bien sûr. Et bon, tout ceci, j'ai pu le réaliser grâce à mes parents auxquels je rends hommage et grâce surtout à l'école.
Et puis, vos parents étaient agriculteurs, donc on pouvait penser que vous auriez pu reprendre en fait le travail de vos parents, tout simplement.
Alors,
on aurait pu penser que vous alliez
jusqu'à
leur succéder.
Jusqu'à l'âge de 18 ans, donc après jusqu'au baccalauréat, j'ai passé toutes mes vacances dans la campagne où je suis né, aidant aux travaux de la ferme, et j'ai appris beaucoup de choses sur le plan manuel, mais pas seulement, sur le plan des comportements humains déjà. Et effectivement, j'ai quelques connaissances très modestes dans les pratiques agricoles, et quelquefois, certains de mes interlocuteurs sont surpris quand je puis discuter avec eux sur des problèmes concernant la culture, la vigne, l'élevage, la fenaison, etc. Mais j'avais un frère aîné, plus aîné que moi, qui, lui, était passionné par la ferme et qui était destiné à prendre la succession familiale. Maintenant, c'est son fils, mon neveu, qui a pris la succession. Et moi, Ça ne m'a créé aucun problème parce que je, bien que
la relève était assurée.
La relève était assurée, mais j'étais tenté par l'école et les métiers autour de l'école. Donc, mon objectif premier était d'être instituteur.
Alors oui, effectivement, vous donc vous passez justement à l'école, l'école d'instituteur, et puis après, suite à cela, en 1960, vous montez à Paris.
Paris.
Comment ça se passe justement cette montée sur Paris? Est-ce que c'est difficile de quitter son Bourbonnais natal pour Paris? Quel est votre état d'esprit à cette époque-là ?
Ce qui a été difficile, c'est de quitter la famille. Et ce fut la rupture, finalement, avec mes parents, non pas de mon côté, mais du leur. Parce que je voyais bien, d'une part, qu'ils étaient extrêmement inquiets, et d'autre part, qu'ils en souffraient un peu, même si c'était pour une bonne cause. Hein, ils n'ont jamais remis en cause ce départ. Mais c'est ce qui m'a le plus gêné. Sinon, j'étais extrêmement content d'arriver à Paris, de découvrir la capitale. Et effectivement, le lycée Chaptal, on était évidemment à l'époque interne, entre quatre murs, en blouse grise, avec peu de sorties. Nous fréquentions surtout la salle d'études. Les sorties étaient très limitées dans le temps pour aller faire quelques courses, une demi-journée par semaine. Mais malgré ça, je garde un souvenir qui est celui de voir se créer au sein d'une promotion de classe préparatoire des amitiés qui, pour l'essentiel, se sont maintenues jusqu'à ce jour. Et puis, pendant cette année de classe préparatoire, ce fut pour moi, par exemple, la première occasion d'aller à l'Opéra de Paris. Et c'est quelque chose que je n'oublie pas, même actuellement, à chaque fois que je vais à l'opéra, je pense à cette première pour moi à l'Opéra de Paris en 1961. C'était Carmen, chantée par Jeanne Rhode à l'époque, et c'est quelque chose qui me reste pour la vie.
Et c'était justement quelque chose qui traduisait le fait que vous étiez sur Paris, que vous étiez à Paris. Qu'est-ce que ça traduisait, le fait d'aller à l'opéra pour vous ?
C'était l'ouverture sur un monde nouveau que je ne connaissais pas directement, dont j'avais entendu parler en lisant ou en écoutant la radio.
Vous voulez dire le monde de l'opéra, le monde
non,
de la...
c'était l'autre, un autre monde. C'était
l'artistique.
Le monde, oui, la dimension artistique, la musique, mais surtout la grande différence entre la ville et la campagne. Dans mon village, pour aller à l'opéra, il fallait peut-être une fois, il y avait une occasion une fois par an, au prix de nombreux kilomètres, pour assister à un opéra à Paris. On avait tout sur place. Et puis, comme je vous le disais, étant resté très longtemps, pendant toute ma jeunesse, dans mon village, j'avais ce goût de partir et donc de voir d'autres horizons. Paris a été pour moi le premier horizon nouveau à 18 ans.
Alors justement, vous parlez de Paris, vous dites que vous êtes resté enfermé entre quatre murs, que vous travaillez, et pour cause, les résultats s'en suivront. C'est que non seulement donc, suite à cette première année de préparation, vous êtes pris directement à l'ENS, et puis vous ressortez major de votre promotion à l'ENS. Et puis également premier à l'agrégation, je crois, de sciences naturelles.
Oui. Oui, c'est vrai.
C'est parce que vous n'aviez rien d'autre à faire.
C'est une série de concours. Hein. C'est grâce aux concours, donc, et ce qu'on appelle un peu rapidement d'ailleurs l'élitisme républicain, que j'ai pu progresser, effectivement, entrer à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Et pendant 4 ans d'études, il a fallu bien sûr passer la licence et ceci à l'Université de Paris, en Sorbonne. Hein. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Paris. Donc une fois entré à l'école, le travail ne s'arrête pas. Hein. Et là pour moi aussi, c'était la très grande découverte de toutes les disciplines, puisque j'ai fait une licence de sciences naturelles. C'est au niveau du diplôme d'études supérieures, donc en troisième année d'études, que j'ai fait de la géologie. Et ensuite, en quatrième année, l'agrégation de sciences naturelles, option géologie.
Alors voilà, nous arrivons donc à la fameuse discipline, la géologie, puisqu'effectivement, au tout début, vous vous penchez plutôt vers la biologie, tout simplement. Vers quelle discipline de la biologie? Parce que ça reste assez vague. Et qu'est-ce qui vous fascinait à la base?
Eh bien, je pense, de par mes origines, j'ai toujours été tenté par... La biologie, qu'il s'agisse de la biologie animale ou de la biologie végétale. Donc j'ai côtoyé pendant toute ma jeunesse la nature, essayant de la maîtriser quelquefois, d'autres fois de me laisser dompter par elle. Et j'ai aussi regardé de très près dans cette nature les roches qui affleuraient dans ma région. Et donc, les sciences naturelles me passionnaient. D'ailleurs, lors de mes études de baccalauréat en section mathématiques, mon professeur de physique aurait bien aimé m'orienter pour une poursuite d'études en physique. Mais j'avais choisi les sciences de la nature au sens large. Et puis, voilà, j'ai passé le concours d'entrée à l'École normale supérieure. Et j'ai eu différents interrogateurs. Un interrogateur en géologie, le professeur Jean Auboin.
Jean Auboin, dont nous reparlerons un peu plus tard d'ailleurs.
Et cet interrogateur m'a fait subir mon oral, l'écrit d'abord, puis l'oral, en me posant des questions tellement pertinentes, tellement intelligentes, tellement innovantes, que ça a été une séduction et que je me suis dit, voilà, la géologie que je connaissais autrement, c'est pas cette géologie-là. Ce qui me plaît, c'est cette géologie telle que mon interrogateur veut me la faire percevoir.
En fait, c'est en passant un oral d'examen que vous vous rendez compte que finalement...
De concours.
Que finalement, c'est peut-être pas vraiment la biologie, enfin stricte du terme, qui vous intéresse, c'est plutôt la géologie.
Absolument.
C'est assez incroyable.
Absolument. Et j'ai eu hâte de découvrir, après être entré à l'école, donc les enseignements nouveaux à l'époque, c'était en 1960-1961, de géologie, à la Sorbonne d'abord, puis à Jussieu ensuite. Et j'étais dans la section où ce même professeur, professeur Auboin, enseignait la géologie. Et en plus, c'était l'époque où les jeunes étudiants en géologie faisaient du terrain. C'est-à-dire qu'il y avait des enseignements très concrets. Et à la fin de l'année universitaire, nous allions avec Jean Auboin, tous les étudiants de Paris, passer une semaine en Provence, entre Toulon et Briançon, nous intéressant à la géologie de la Provence et des Alpes. Et alors là, ça a été évidemment un enthousiasme plus que renouvelé, et ma décision évidemment a été prise de continuer en géologie, et si possible... avec ce maître.
Alors voilà, ce maître, Jean Auboin, qui est membre de l'Académie des sciences, qui est votre confrère, vous avez rejoint votre professeur, va être votre directeur de thèse, et vous allez faire une thèse sur, alors il faut peut-être nous expliquer, les dinarides de l'ancienne Yougoslavie. Donc ça correspond maintenant à la Bosnie, je crois. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant à aller voir là-bas? Et je précise peut-être une chose, c'est qu'à l'époque, nous sommes dans les années 60, la géologie, c'est un boom incroyable dans la géologie, en fait. C'est une discipline qui débute et qui, je pense, a de nombreuses choses à nous faire découvrir.
Absolument. C'était, pour la géologie, l'époque des grandes découvertes. Tout de suite après la grande période de l'exploration pétrolière et des ressources minérales en Afrique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'était juste la période où, notamment outre-Atlantique, se développait le concept de tectonique des plaques, qui n'est arrivé en Europe qu'un peu plus tard et en France encore un tout petit peu plus tard. Mais c'était cette époque-là. Donc c'était une époque de très grands changements. Et on changeait d'échelle, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on regardait, pour ceux qui faisaient du terrain, on regardait les choses dans, avec une approche globale. C'est-à-dire, la géologie est une science historique et une science d'observation, mais il faut faire les choses à la bonne échelle. Quand on veut décrire des phénomènes de la planète Terre, il faut avoir la bonne échelle dans l'espace et la bonne échelle dans le temps. Et donc, mon maître, Jean Houboin, avait lancé un programme qui, à l'époque, était extrêmement ambitieux, c'était l'étude des chaînes alpines de la Méditerranée moyenne, c'est-à-dire qui, partant de l'Autriche, englobait l'ensemble de la botte italienne, la péninsule balkanique, la Grèce, bien sûr, les îles de la mer Égée, jusqu'en Turquie. Et donc, c'était ce ruban montagneux dans son ensemble qui était l'objectif. Mais pour ce faire, il y avait des études de terrain très précises sur des secteurs bien définis. Et nous avons travaillé dans le cadre d'une équipe. Il y a eu une quinzaine, peut-être même un peu plus, de thèses sur cet ensemble. Et c'est en confrontant les données nouvelles que nous avons pu contribuer à construire un nouveau modèle de formation pour cet ensemble montagneux. Effectivement, Jean Houboin, qui pilotait cette équipe, a été ensuite a fait une très brillante carrière nationale et internationale. Il a été élu à l'Académie des sciences et il a été le président de l'Académie des sciences et il est maintenant membre de l'Académie des sciences. Mais pour tout vous dire, si j'avais choisi la géologie, j'aimais beaucoup les autres disciplines de la biologie et pendant mes études de licence, j'ai été à un moment attiré par la physiologie animale. Et là aussi, avec des enseignants extraordinaires à l'université, des enseignants-chercheurs, je pense à M. Buzère, je pense à M. Morel, je pense à M. Jost, qui ont tous été ensuite à l'Académie des sciences. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas. Et ces éminents confrères, alors que j'étais modeste étudiant à Paris, m'ont fait des propositions à l'époque pour venir avec eux faire une thèse en physiologie. Eh bien, j'ai résisté pour rester dans le domaine de la géologie qui a été ma passion.
Et alors, pour revenir et pour terminer sur cette fameuse question de la Yougoslavie, vous y passez d'ailleurs combien de temps là-bas, en fait ? Votre thèse va durer combien de temps ?
Alors, ma thèse va durer... j'ai effectué cette mission pendant 7 années successives. C'était des missions de l'ordre de 4 mois par an, les mois d'été, puisqu'étant enseignant-chercheur, j'avais mes obligations de cours, mais j'ai passé tous mes mois entre fin juin et début octobre sur le terrain en Yougoslavie. Alors, ça a été un petit peu plus long que je ne l'aurais souhaité, parce que la situation, vous l'imaginez, politique, était quand même très complexe.
Oui, très dégradée.
Très dégradée, oui, très complexe. Nous étions très surveillés, nous avons eu de nombreuses aventures sur lesquelles je passe. Ça n'était pas facile dans un pays qui, tout en étant, comme disaient les touristes de l'Europe de l'Est, le paradis des pays de l'Est, n'en était pas moins avec un régime très surveillé, très policier.
Vous étiez accusé d'espionnage, peut-être.
Voilà, exactement. Il était toujours très curieux de voir des étrangers se promener avec marteau, tenue de campagne, récoltant des échantillons ici ou là. Voilà.
C'était suspect.
C'est dans les montagnes les plus reculées où nous étions finalement le plus tranquilles, parce que nous étions très très bien acceptés par les populations. Dans les zones de vallées plus fréquentées, ça a quelquefois été très difficile.
Mais alors, dans ces montagnes, quand même, il faut le dire, pour nos auditeurs, vous mettez en avant, vous travaillez sur le fait que ces roches, qui apparemment sont particulières, ce sont des fragments de la croûte océanique. Quelque chose qu'on n'avait pas encore, qu'on ne pouvait pas encore prouver, en tout cas.
Voilà, cette chaîne de montagnes, là où je l'ai étudiée, comprend en gros trois éléments. Deux bordures de bassins d'un petit océan, encadrant justement un bassin dans lequel était exposée une lithosphère océanique, c'est-à-dire des fonds comparables aux petits bassins océaniques avec des roches de type basaltique, alors que sur les marges, il y avait essentiellement des calcaires, comme on en connaît dans bien des régions. Et ceci, c'était l'état de départ, donc un bassin océanique avec une croûte océanique, et puis deux marges de part et d'autre en serrant ce bassin. Lors des phénomènes de compression, vous comprimez le tout, évidemment, il y a des ruptures, des cassures, des chevauchements, les différentes unités se chevauchent les unes les autres, et on a au résultat un système imbriqué dans lequel on peut reconnaître assez facilement l'ancienne croûte océanique.
C'est une découverte ou alors il fallait le prouver? On était dans quelle situation?
Il fallait d'abord savoir trouver l'organisation générale, redéplier les choses en les reconstruisant, en les mettant bout à bout, parce que tout est quand même très raccourci, très plissé, très raccourci, avec des chevauchements des unités les unes sur les autres. Donc il faut étudier chaque unité, déplier le système pour reconstituer une logique. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et c'est au final, ayant fait ces reconstitutions, plus des séries d'analyses, évidemment, des séries d'analyses précises, pour mettre en place les choses en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Et lorsqu'on a fait tout ce travail très précis, on s'aperçoit qu'effectivement, il existe dans cette chaîne de montagnes comme dans d'autres, des reliques, des témoins d'une ancienne croûte océanique, d'une ancienne croûte océanique d'environ 140-150 millions d'années, qui se trouve actuellement prise en copeaux entre les deux marges rapprochées.
Donc finalement, cette théorie qui était déjà validée de la tectonique des plaques, là pour le coup, elle se révélait totalement dans votre théorie.
Voilà, c'est-à-dire, j'ai bénéficié aussi à cette époque d'un grand développement des disciplines nouvelles, notamment de la sédimentologie avec des approches géochimiques. Et c'était au tout début. Et comme c'était au tout début de la tectonique des plaques importée en Europe, puisque en France, les universités ont enseigné la tectonique des plaques peu après 1968 seulement. Alors qu'aux États-Unis,
il y a un grand décalage.
Il y a un décalage. Et donc, moi, je me suis trouvé à faire ce travail au tout début, avant les enseignements à l'université, mais ayant connaissance de ce qui se faisait aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Et donc, comme ça, avec ma connaissance du terrain, j'ai confronté à ces modèles sur les grands océans, sur les océans actuels. Et à partir de là, j'ai proposé une comparaison entre ce qu'aurait pu être, à mon avis, l'histoire de cette chaîne de montagnes en Yougoslavie et l'histoire d'un petit morceau d'océan et de ses marges aujourd'hui.
Alors, je vous propose de marquer une courte pause, monsieur le recteur, René
Merci.
Blanchet, et on se retrouve tout de suite après pour parler des autres pays que vous
D'accord.
avez visités. À tout de suite.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission « Au fil des pages ». L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de René Blanchet, académicien des sciences, recteur. Alors, René Blanchet, nous nous sommes quittés en Bosnie, enfin l'ex-Yougoslavie, là où vous avez travaillé pendant cette année par petite période sur votre thèse. Vous partez ensuite ailleurs, puisque votre titre de géologue vous permet de voyager. Quels sont les pays où vous allez pouvoir exercer votre fonction et puis, bien sûr, nous transmettre toutes les connaissances que vous allez accumuler?
Eh bien, sitôt après ma thèse, grâce d'ailleurs au conseil de Claude Allègre, autre membre de l'Académie des sciences, je suis allé effectuer un stage de plusieurs mois aux États-Unis, à la Scripps Institution of Oceanography à San Diego, Université de Californie. Là, j'ai approfondi les comparaisons entre les chaînes de montagne et la recherche océanographique. Et c'est de là qu'est partie finalement cette marche vers les océans qui m'a conduit ensuite à rechercher dans différentes chaînes de montagne de par le monde les traces de ces histoires océaniques anciennes.
Les océans fossiles.
Les océans fossiles, les océans disparus. Voilà. Et donc, après les États-Unis, je suis rentré, j'ai été ensuite nommé professeur à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Et là, j'étais dans un site en proximité d'Ifremer, le CNEXO à l'époque, où j'ai pu développer un département de recherche en comparant les données à terre, la géologie à terre et la géologie marine. Et ceci a fourni un nombre très important de travaux à terre et en mer, et en comparaison, alimentant de nombreuses thèses qui ont été effectuées sur ces sujets.
Et quand on compare justement, quelles sont les différences ou quels sont les rapprochements que l'on peut faire ?
Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut retrouver dans les océans actuels les différentes étapes, évidemment, de tout ce qui est aujourd'hui à l'affleurement sur la planète Terre. Et au-delà, on fait des découvertes absolument passionnantes qui n'avaient pas été connues sur Terre, comme toute l'activité volcanique et biologique autour des dorsales médio-océaniques. Ceci n'avait pas été vu sur Terre. On l'a vu d'abord dans l'océan et ensuite on l'a recherché et un peu trouvé, bien sûr, sur les continents. Donc cet aller-retour entre deux domaines très différents, la Terre et l'océan, a été extrêmement fructueux. Et puis ensuite, grâce à la subvention accordée par un prix de l'Académie des sciences, j'ai pu effectuer une mission au Venezuela.
Ah, alors là, vous m'intéressez.
Donc, le domaine Caraïbes.
Venezuela, Mexique, là, vous allez faire des rencontres humaines importantes, il me
absolument.
Semble.
Absolument. Ça a été pour moi une très grande découverte. Venezuela, grand pays pétrolier de la planète.
Nous sommes dans la fin des années 70, début des années 80.
La première mission était en 1964. Et j'y suis retourné jusqu'en 1987, très régulièrement tous les ans, et ensuite je suis revenu bien sûr. C'est un pays qui pour moi est très attachant, c'est un mélange d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, c'est un mélange de technologies, c'est un mélange d'autoroutes et de chemins non faits, de brousses, c'est un d'une part et d'autre part. C'est un peuple extraordinaire, là aussi une population très mélangée, où les contacts humains ont toute leur importance. C'est vrai aussi pour le Mexique, hein, c'est vrai pour sans doute la plupart des pays de l'Amérique latine.
Des pays
du
Sud.
Oui. Là, j'ai vu des préoccupations extrêmement importantes sur le plan du développement. Bien sûr, il y a le pétrole.
Mais c'est d'ailleurs pour ça au départ que vous vous
déplacez
au Venezuela.
C'est absolument pour cela. J'ai travaillé avec la direction de l'énergie et des mines et avec Petroleos de Venezuela, qui est la compagnie nationale vénézuélienne. Là aussi, nous avons fait de la recherche sur le terrain, mais nous avons aussi une entreprise de formation, c'est-à-dire que j'ai accueilli en France des jeunes Vénézuéliens, ou des moins jeunes d'ailleurs, pour faire leur thèse, ou des spécialistes des compagnies pétrolières qui faisaient leur formation continue en France. Donc il y a eu des échanges extrêmement fructueux. Et à l'époque, il y a peu de temps quand même, on disait que, évidemment, le pétrole vénézuélien était un pétrole difficile à exploiter parce que c'était un pétrole lourd, parce qu'il était dans des conditions de gisement un peu particulières, un peu difficiles. Mais nous, dans nos recherches, nous assistions pour qu'il y ait des investigations très poussées, ce que nous avons fait. En termes de potentiel d'exploration du potentiel pétrolier. Eh bien aujourd'hui, avec la crise, on s'aperçoit que, évidemment, ces nouvelles frontières pour l'exploration du pétrole, elles sont extrêmement recherchées et tout à fait d'actualité. Voilà pour le Venezuela.
Mais pour le Venezuela, juste pour encore s'arrêter deux petites minutes, vous, au sein de cette compagnie nationale du pétrole au Venezuela, vous étiez chargé de trouver également peut-être, je ne sais pas moi, les endroits de fourrage où c'était juste de la formation.
Ah non, ça a été de la formation pour les personnels, mais ça a été de la recherche, de l'exploration, ce qu'on appelle de l'exploration, c'est-à-dire ce qui vient très en amont de l'exploitation pétrolière, c'est-à-dire du forage. Et nous n'avons jamais confondu les genres, parce que ce sont des métiers tout à fait complémentaires, qui doivent s'intéresser l'un à l'autre, mais chacun sa spécialité. Donc nous apportions, nous décortiquions la chaîne de montagne et son avant-pays, nous analysions les profils sismiques, nous construisions, si vous voulez, le Lego qui explique la structure. Et puis ensuite, les spécialistes des gisements de pétrole voyaient très bien où pouvaient être les pièges faciles à l'époque, et ceux-là ont été forés, mais les pièges plus difficiles qui aujourd'hui
sont
reviennent
rentables
dans la pleine actualité.
Et pourquoi, enfin peut-être que vous pouvez m'expliquer, comment se fait-il que cette fameuse compagnie pétrolière au Venezuela n'ait pas fait appel à des Américains qui étaient peut-être certainement
plus près ?
Ah,
mais nous étions dans une concurrence, bien sûr. Il y avait d'abord, il y avait aussi des compagnies pétrolières françaises, mais il y avait des compagnies pétrolières américaines. Et quelquefois, au début, nous nous croisions dans les halls lorsque nous arrivions pour nos campagnes. Mais je crois que pendant un certain nombre un certain moment, le Venezuela a apprécié notre expertise et notre approche un peu différente de nos collègues nord-américains. Il y a une tradition dans la géologie pétrolière, une tradition européenne, portée bien sûr par les Français, mais pas seulement, par les Suisses, par les géologues suisses, par les géologues hollandais, qui ont une très grande réputation en matière de géologie pétrolière. Et donc nous étions dans cette concurrence, et je crois que pendant un certain temps, on nous a préférés. Et puis dans ces pays, on aime beaucoup la diversité. On n'aime pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ils ont joué, peut-être sans le savoir, la carte de la diversité des expériences, et je crois que c'est une très bonne démarche scientifique.
Alors, il y a le Venezuela, il y a le Mexique aussi.
Alors, le Mexique. Alors là, j'étais surtout en compagnie d'un ami qui a vécu au Mexique, qui a piloté beaucoup d'opérations, le professeur Tardy, qui est en Savoie. Et là aussi, c'est un très très grand pays, encore plus proche des États-Unis, bien sûr, avec des ressources pétrolières qui à l'époque étaient suspectées, tout juste explorées, un tout petit peu exploitées. Mais maintenant, c'est un pays, un grand pays pétrolier, avec une économie extrêmement active, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore du Venezuela, mais le Mexique est parmi les pays qui montent dans le monde, parce qu'après la Chine, après l'Inde, après le Brésil, on parle maintenant du Mexique, c'est le pays qui économiquement arrive tout de suite après.
Alors, la question qui me viendrait à l'esprit, c'est que vous êtes... Entre-temps, donc vous êtes nommé professeur, vous enseignez. Oui. Qu'est-ce que vous préfériez ? C'était l'enseignement ou c'était ce domaine de l'entreprise, en fait, ou au Venezuela, ou au Mexique, ou ailleurs, où il y avait une question de démarche de commerciale ? Qu'est-ce qui vous...
Je n'ai pas de préférence. Je n'avais pas et je n'ai pas de préférence. Je pense que c'est un tout. Et je pense que les oppositions qui sont faites entre recherche fondamentale et recherche appliquée sont souvent stériles. En tout cas, j'ai encadré beaucoup de thèses qui étaient des thèses de recherche fondamentale, faites grâce et dans des entreprises privées, des entreprises pétrolières. Et je peux vous dire que les études, d'abord ce sont des thèses universitaires, et maintenant les gens ont eu des carrières ou au CNRS ou dans la recherche pétrolière ou ailleurs, mais je peux vous dire que pour les jeunes étudiants, ils apprécient énormément. Ils apprécient énormément ces démarches et pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de coupure entre l'enseignement et la recherche et les activités d'un professeur et que les activités d'un professeur en recherche ou en liaison avec les entreprises sont très enrichissantes pour le cours. Très enrichissantes pour le cours. Et qu'à l'inverse, lorsque vous faites un cours en maîtrise, souvent vous avez une question de quelques étudiants qui vous pose un réel problème. Et quand vous revenez avec votre cours sous le bras dans votre labo, vous revenez avec la naissance, le germe d'une nouvelle idée ou d'un nouveau questionnement.
En fait, il est important d'avoir une application concrète derrière.
Il est important de considérer que la recherche fondamentale peut, par définition, déboucher sur des applications à tout moment, sans qu'on le sache, et donc on ne doit pas couper les deux.
Alors, de retour en France, vous êtes nommé cette fois-ci à Nice, professeur d'université donc à Nice, et là vous allez y rester une douzaine d'années, il me semble, là vous vous installez un peu plus.
Oui, oui.
Et puis, vous allez changer de casquette, hein, vous allez passer de l'Indiana Jones, ouais. Ce côté aventurier, à un côté, on va dire, un peu plus d'esprit d'encadrement d'équipe, où vous allez être nommé recteur.
Voilà.
C'est un changement radical dans votre vie ou c'est tout à fait dans la continuité de votre carrière ?
Après ce que je viens d'expliquer, j'ai quand même eu aussi beaucoup d'actions dans l'Ouest Pacifique, Taïwan, les Philippines. J'ai effectué de campagnes à la mer, dans la fosse des Mariannes, dans la fosse des Tonga, dans le domaine Caraïbe. Donc, pour ce côté explorateur, comme vous...
Aventurier,
mais aventurier géologique. Évidemment, j'ai eu beaucoup d'autres expériences. Et puis, nommé à Nice, j'ai été appelé effectivement en fonction de recteur. C'est une rupture, incontestablement, mais à la réflexion, pas complète. D'abord, dans ma carrière, j'ai eu une phase, surtout j'ai fait beaucoup d'enseignement, puisque j'ai préparé 12 promotions à l'agrégation de sciences naturelles, tout en faisant ma recherche. J'ai eu une phase ensuite très active en termes de recherche, et il me manquait un petit peu cette expérience d'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et j'ai eu la chance de pouvoir exercer les fonctions de recteur d'académie, effectivement.
Mais alors, parfois, est-ce que ça vous... vous avez des fourmis dans les mains et dans les pieds pour aller, je ne sais pas, repartir au Venezuela ou au Mexique ?
Pendant les premières années, oui. Je pensais que ces fonctions allaient être tout à fait compatibles avec l'encadrement des thèses, avec une activité de recherche même réduite. Et puis, je me suis très vite aperçu que ça n'était pas compatible. J'ai achevé tout ce que je devais vis-à-vis de mes étudiants, bien sûr. Et puis ensuite, je me suis consacré à ces fonctions de recteur chancelier des universités, qui ont été pour moi des années extrêmement, extrêmement riches, en continuant à lire, bien sûr, à essayer de savoir un petit peu ce que devenait... Les équipes des laboratoires auxquels j'ai appartenu, les anciens élèves.
Vous étiez toujours au fait de l'actualité concernant votre discipline.
Pas dans le détail, hein, pour être très, très clair, pas dans le détail, mais j'ai toujours conservé les clés pour pouvoir lire la géologie dans le monde.
Alors, vous êtes nommé recteur, donc bien sûr, dans plusieurs endroits, hein, donc oui. À Nice au départ, Toulon, Montpellier, Marseille, Paris. Alors, quel est le meilleur endroit pour les personnes qui voudraient avoir quelques informations?
Je crois que ce qui est formidable dans notre pays, c'est qu'on a un tissu universitaire extrêmement développé.
Est-ce qu'il y a des différences vraiment importantes
sur le plan
d'une académie à une autre?
Oui, bien sûr, il y a des différences. Par exemple, entre Nice et Montpellier, ce n'est pas du tout la même situation, même si les villes sont toutes les deux dans le Midi. Hein. Mais au sein d'une académie, c'est vrai aussi, entre Marseille et Aix-en-Provence, qui appartiennent à la même académie, il y a des différences considérables. Ce qui m'a beaucoup occupé, intéressé et passionné, c'est le développement universitaire. Et c'est que j'ai eu la chance d'arriver au moment où il y avait un développement universitaire, le plan Université 2000, dans les années 89-92, où j'ai préparé donc pour toute l'Académie de Nice le développement universitaire au plan local, bien sûr, sous l'autorité des ministres. J'ai eu ensuite la chance d'être recteur à Paris au moment du grand plan université du troisième millénaire de 1999 à 2002.
À chaque fois, vous participiez à de grands chantiers.
Absolument. Et ça m'a beaucoup plu. D'abord, de faire le bilan des besoins en développement, des besoins considérables pour notre pays, hein, pour développer la recherche et l'enseignement supérieur, pour la mise à niveau de locaux existants, pour le regroupement, l'organisation de la recherche pour être plus efficace. Et donc, j'ai eu la chance de contribuer à la déconstruction. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ces plans scientifiques sur des projets scientifiques pour répondre en termes de locaux, mais on partait des projets scientifiques. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à aller jusqu'au concours d'architecture et quelquefois jusqu'au lancement des chantiers et plus rarement jusqu'aux inaugurations, puisque généralement, j'avais changé de poste au moment où on inaugurait.
En tout cas, vous parlez au passé de votre fonction de recteur, puisqu'effectivement, Vous ne l'êtes plus. Vous gardez bien sûr le titre, Mais vous ne l'êtes plus. Et vous êtes de nouveau professeur à Nice. Vous avez retrouvé Le contact direct avec les étudiants.
Alors, j'ai trouvé le contact direct avec l'université, qui est mon université d'accueil, Nice Sophia Antipolis. Et je suis donc à l'université dans des fonctions de conseil auprès du président. J'anime un certain nombre de groupes scientifiques, comme par exemple le groupe qui regroupe les académiciens de la région et les membres de l'Institut universitaire de France. Nous faisons des propositions au président d'université qui soumet ensuite à ses conseils. Mais surtout, en plus, à Sophia Antipolis, donc sur le parc technologique, la technopole de Sophia Antipolis, à la fondation Sophia Antipolis où je suis administrateur auprès du sénateur Pierre Lafitte, je suis les problèmes de relations de développement universitaire d'abord sur le parc technologique, le problème des relations entre l'université, la recherche et les entreprises, comme par exemple le développement des pôles de compétitivité, qui est une entreprise lancée par le gouvernement il y a un peu plus d'un an. Et voilà, je suis ces articulations que je pense fertiles entre l'université, la recherche et le monde économique.
Finalement, vous avez réussi à coupler ces trois fonctions, on va dire, différentes qui, finalement, pour vous, vont ensemble.
Un peu, et vous parliez des jeunes. Je pense que là aussi, j'ai un retour sur image parce que je m'investis dans le domaine de la culture scientifique, pour essayer d'expliquer aux jeunes tout l'intérêt qu'il y a à faire des études scientifiques, puisque nous avons une diminution du nombre des jeunes qui choisissent ces voies. Et avec d'éminents collègues universitaires, nous avons des actions dans les collèges, dans les lycées. Et d'ailleurs,
vous participez à la main à la pâte ?
Absolument, je suis dans le groupe aux côtés de Pierre Léna. Donc
Yves Quéré et Georges Charpak.
Absolument, à l'Académie. Et nous essayons, autour de Nice, autour de l'université, avec un collègue, Pierre Coulet, nous essayons de développer cet esprit main à la pâte, prenant en compte les spécificités locales.
Et de ce fait, assimiler l'information scientifique avec quelque chose de pratique à côté.
Alors, absolument, le pratique, la culture scientifique comme élément de la culture. On ne peut plus aujourd'hui s'abstraire de la culture scientifique, et la culture scientifique et technique est un élément de la culture. Et d'ailleurs, l'Académie des sciences, qui a tenu ses réunions en province pendant 2 jours en mai dernier à Nice, a eu l'occasion de voir ce que nous faisions, puisque nous avons présenté dans un lycée technique et professionnel des expériences de relations très concrètes de développement de la culture scientifique dans un établissement.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans les années à venir ? Est-ce que vous avez déjà un programme d'établi ? Ou est-ce que, depuis le début où vous êtes parti faire votre thèse en Yougoslavie, les choses se passent par hasard ? Est-ce que vous programmez ?
Il faut un petit peu, pas programmer, mais un petit peu profiter des opportunités et forcer un peu le hasard. Si on attend que les choses arrivent, il ne se passe rien. Donc il faut être volontariste.
Alors
quand même.
Qu'est-ce que vous allez faire là pour les années à venir ?
Je crois que pour les années à venir...
Vous avez des projets ?
Oui, je souhaiterais m'investir encore plus pour transmettre aux jeunes, c'est-à-dire aux années collège. Je pense qu'il y a un travail important à faire. Que
Mais
la
transmettre...
main à la pâte a commencé à effectuer à titre expérimental. Mais aussi, il faut songer aux années lycées, qui sont très différentes. Les années lycées, pour moi, ce sont des années pré-universitaires. On devrait, au lycée, préparer à l'université. Alors que dans notre pays, souvent, on n'en finit pas de sortir du collège. En France, le lycée est postérieur au collège, mais il n'est pas suffisamment préparatoire à l'université. Et donc, je voudrais travailler avec des jeunes pour leur montrer qu'au travers de l'expérience scientifique d'une vie, chacun peut s'exprimer dans tous les domaines, y compris dans le domaine scientifique.
Et la culture scientifique, dans le domaine de la géologie ou bien plus large ?
Dans le domaine de la géologie, puisque c'est là
c'est
que
votre
j'ai
domaine.
L'expérience. Et parce que je crois aussi que c'est un domaine passionnant pour les jeunes. Parce que plutôt que géologie, il faut dire science de la planète. Science de la planète et de l'univers. Et parce que la Terre, la géologie ne peut s'expliquer que dans un contexte spatial, que dans le bon contexte spatial. Et pour les jeunes, c'est extrêmement passionnant, attractif, pourvu qu'on sache leur compter. Parce qu'il y a un aspect, il faut être aussi un petit peu conteur.
Bien sûr, il faut que la personne qui, comme vous, le fait si bien, soit passionnée et transmette cette passion, parle avec, on va dire, en phase en tout cas de cette discipline pour pouvoir transmettre ce goût d'en savoir un peu plus.
Voilà, et je crois que pour les jeunes des quartiers que l'on dit difficiles aujourd'hui, hein, il y a au travers des sciences, il y a au travers d'expériences comme celles que nous avons évoquées, des ouvertures, du sens possible. Mais est-ce qu'on leur présente vraiment ? Je n'en suis pas sûr aujourd'hui.
Eh bien, merci René Blanchet, en tout cas, d'être venu venir nous voir, de nous avoir parlé de votre parcours, de votre projet donc à venir, à développer en tout cas sur la culture scientifique envers les jeunes. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver cette émission dans notre médiathèque au www.canalacademy.com et que vous pouvez bien sûr retrouver des informations sur la faculté de Nice, sur le site internet qui correspond. Merci et à très bientôt. Merci
à vous.